Mes frères bien-aimés, ne croyez surtout pas que l'évangile que nous venons d'entendre ne concerne que les prêtres envoyés deux par deux dans le monde les pieds nus, sans un sou dans la poche. Non, l'évangile de ce jour vous concerne. Certes, il parle de moi, mais il parle aussi de vous. Il parle de tout le peuple chrétien devenu apôtre par le baptême qu'il a reçu. Et d'ailleurs, si ce texte n'avait rien à voir avec votre vie, pourquoi l'Église le proclamerait-il le dimanche alors que toute la communauté est rassemblée? Mes frères, j'ai donc aujourd'hui une bonne nouvelle à vous transmettre. Vous faites partie des 72 disciples, surtout pas que l'évangile que nous venons d'entendre ne concerne que les prêtres envoyés deux par deux dans le monde les pieds nus, sans un sou dans la poche. Non, l'évangile de ce jour vous concerne. Certes, il parle de moi, mais il parle aussi de vous. Il parle de tout le peuple chrétien devenu apôtre par le baptême qu'il a reçu. Et d'ailleurs, si ce texte n'avait rien à voir avec votre vie, pourquoi l'Église le proclamerait-il le dimanche alors que toute la communauté est rassemblée? Mes frères, j'ai donc aujourd'hui une bonne nouvelle à vous transmettre. Vous faites partie des 72 disciples que le Seigneur a choisis. Pour surtout pas que l'évangile que nous venons d'entendre ne concerne que les prêtres envoyés deux par deux dans le monde les pieds nus, sans un sou dans la poche. Non, l'évangile de ce jour vous concerne. Certes, il parle de moi, mais il parle aussi de vous. Il parle de tout le peuple chrétien devenu apôtre par le baptême qu'il a reçu. Et d'ailleurs, si ce texte n'avait rien à voir avec votre vie, pourquoi l'Église le proclamerait-il le dimanche alors que toute la communauté est rassemblée? Mes frères, j'ai donc aujourd'hui une bonne nouvelle à vous transmettre. Vous faites partie des 72 disciples que le Seigneur a choisis pour surtout pas que l'évangile que nous venons d'entendre ne concerne que les prêtres envoyés deux par deux dans le monde les pieds nus, sans un sou dans la poche. Non, l'évangile de ce jour vous concerne. Certes, il parle de moi, mais il parle aussi de vous. Il parle de tout le peuple chrétien devenu apôtre par le baptême qu'il a reçu. Et d'ailleurs, si ce texte n'avait rien à voir avec votre vie, pourquoi l'Église le proclamerait-il le dimanche alors que toute la communauté est rassemblée? Mes frères, j'ai donc aujourd'hui une bonne nouvelle à vous transmettre. Vous faites partie des 72 disciples que le Seigneur a choisis. Pour surtout pas que l'évangile que nous venons d'entendre ne concerne que les prêtres envoyés deux par deux dans le monde les pieds nus, sans un sou dans la poche. Non, l'évangile de ce jour vous concerne. Certes, il parle de moi, mais il parle aussi de vous. Il parle de tout le peuple chrétien devenu apôtre par le baptême qu'il a reçu. Et d'ailleurs, si ce texte n'avait rien à voir avec votre vie, pourquoi l'Église le proclamerait-il le dimanche alors que toute la communauté est rassemblée? Mes frères, j'ai donc aujourd'hui une bonne nouvelle à vous transmettre. Vous faites partie des 72 disciples que le Seigneur a choisis pour surtout pas que l'évangile que nous venons d'entendre ne concerne que les prêtres envoyés deux par deux dans le monde les pieds nus, sans un sou dans la poche. Non, l'évangile de ce jour vous concerne. Certes, il parle de moi, mais il parle aussi de vous. Il parle de tout le peuple chrétien devenu apôtre par le baptême qu'il a reçu. Et d'ailleurs, si ce texte n'avait rien à voir avec votre vie, pourquoi l'Église le proclamerait-il le dimanche alors que toute la communauté est rassemblée? Mes frères, j'ai donc aujourd'hui une bonne nouvelle à vous transmettre. Vous faites partie des 72 disciples que le Seigneur a choisis. Pour surtout pas que l'évangile que nous venons d'entendre ne concerne que les prêtres envoyés deux par deux dans le monde les pieds nus, sans un sou dans la poche. Non, l'évangile de ce jour vous concerne. Certes, il parle de moi, mais il parle aussi de vous. Il parle de tout le peuple chrétien devenu apôtre par le baptême qu'il a reçu. Et d'ailleurs, si ce texte n'avait rien à voir avec votre vie, pourquoi l'Église le proclamerait-il le dimanche alors que toute la communauté est rassemblée? Mes frères, j'ai donc aujourd'hui une bonne nouvelle à vous transmettre. Vous faites partie des 72 disciples que le Seigneur a choisis pour surtout pas que l'évangile que nous venons d'entendre ne concerne que les prêtres envoyés deux par deux dans le monde les pieds nus, sans un sou dans la poche. Non, l'évangile de ce jour vous concerne. Certes, il parle de moi, mais il parle aussi de vous. Il parle de tout le peuple chrétien devenu apôtre par le baptême qu'il a reçu. Et d'ailleurs, si ce texte n'avait rien à voir avec votre vie, pourquoi l'Église le proclamerait-il le dimanche alors que toute la communauté est rassemblée? Mes frères, j'ai donc aujourd'hui une bonne nouvelle à vous transmettre. Vous faites partie des 72 disciples que le Seigneur a choisis pour... Surtout pas que l'évangile que nous venons d'entendre ne concerne que les prêtres envoyés deux par deux dans le monde les pieds nus, sans un sou dans la poche. Non, l'évangile de ce jour vous concerne. Certes, il parle de moi, mais il parle aussi de vous. Il parle de tout le peuple chrétien devenu apôtre par le baptême qu'il a reçu. Et d'ailleurs, si ce texte n'avait rien à voir avec votre vie, pourquoi l'Église le proclamerait-il le dimanche alors que toute la communauté est rassemblée? Mes frères, j'ai donc aujourd'hui une bonne nouvelle à vous transmettre. Vous faites partie des 72 disciples que le Seigneur a choisis pour ce moment, non pas dans cette église où il fait trop chaud, n'est-ce pas mes frères, mais sur une route où il fait bon et qui conduit à Jérusalem. Ce sont les vacances, vous aimez les voyages, eh bien ça tombe bien. En raison de la chaleur accablante qui sévit dans la région où nous nous trouvons, Jésus, car nous sommes avec lui, a trouvé un coin d'ombre sensationnel où nous pouvons tous nous asseoir les uns et les autres. Et vraiment, notre joie est grande de nous retrouver ainsi auprès de lui. Quelques gourdes d'eau en peau de brebis circulent pour étancher notre soif humaine, mais celle-ci n'est rien à côté d'une autre soif qui nous habite maintenant. C'est la voix du Christ mise en chapitre et en verset. Si pendant l'été on ne prenait qu'un évangile sur quatre pour le lire et le méditer à dose homéopathique sur une bonne chaise longue allongée près de Jésus comme s'il nous parlait à l'oreille, que de changements s'opéreraient en notre vie. Alors que beaucoup d'entre nous, les activités vont être moindres. Cela tombe bien juste avant le temps des vacances. Volontiers, on parle de bilan, n'est-ce pas? On réfléchit sur son action passée, sur ce que nous avons entrepris, et on prépare ainsi l'avenir, et tout cela est fort louable. Vous serez nombreux, mieux ce sera, car la moisson s'annonce abondante. Première surprise, mes frères, dans la bouche de Jésus. En effet, la moisson dont il parle, nous l'avons bien compris, c'est la récolte des âmes. Nous sommes bien d'accord. Et s'il dit qu'elle est abondante, c'est qu'il y a donc beaucoup à ramasser. Et pourtant, on a l'impression autour de nous que Dieu est le grand oublié, que l'Église catholique est désertée, et que la grande majorité se fiche pas mal de Dieu. Attention, mes frères, cela, il ne faut surtout pas le croire. Je ne prends qu'un tout petit exemple, c'est à trouver Dieu et à se reposer en lui. La semaine dernière, je rencontrais une personne qui avait demandé, il y a quelques années, d'être débaptisée, parce que ça aussi c'est la grande mode maintenant, comme si on pouvait supprimer le baptême de l'âme. Mais c'est absolument impossible, mais tout de même, nous sommes obligés de marquer sur les registres le désir de ces personnes. Eh bien, elle est venue vers moi parce qu'on venait de lui offrir un chapelet, et elle m'a demandé de le bénir. Je lui ai dit, revenez me voir, on va voir tout ça ensemble. Faites-moi confiance, on va repartir. Voyez, mes frères, rien n'est jamais définitif. Et ce garçon de 27 ans, mes frères, que je ne peux plus oublier et que j'avais assisté quelques jours avant sa mort à l'hôpital, vous savez ce qu'il m'a dit? Comme je ne crois pas en Dieu, j'ai peur que Dieu ne m'aime pas. Contradiction, me direz-vous. Non. Complexité du cœur humain qui, malgré les tempêtes qu'il agite, ne lâche pas la main de Dieu. Cependant, il faut bien le reconnaître, le conditionnement dans lequel l'homme occidental est enserré ne facilite pas sa rencontre avec le Créateur. On lui laisse croire qu'il peut se construire tout seul, qu'il n'a pas besoin du Christ, pas besoin du secours divin, pas besoin de l'Église pour parvenir à accomplir sa vie. En réponse à cet état de fait, nous les 72, nous devons en revanche annoncer à temps et à contre-temps que Dieu est là à portée de main et de cœur et qu'il rêve de soutenir chaque homme et de le conduire un jour jusque dans son royaume. Oui, redisons-le mes frères, nous sommes faits pour Dieu Et tous nos déséquilibres viennent de cet axe manquant, de l'absence de cet amour infini qui s'appelle Jésus, que l'on ne prie pas assez, que l'on ne fréquente pas assez, que l'on ne rencontre pas assez dans la prière et dans l'Eucharistie, et qui pourtant ne demande qu'à nous aimer, qu'à nous tenir, qu'à nous rassurer, qu'à nous protéger, qu'à nous donner de l'amour jusqu'au dernier jour. Ah, que la peine du Christ doit être grande quand il voit ses enfants errer sur la terre, les yeux tournés vers le sol poussiéreux, certains tentés par le suicide, l'âme en peine, cherchant de tous les côtés, sans y croire vraiment, un éclat d'amour, un éclat de bonheur. Quand je pense à ces forums internet où des milliers d'hommes et de femmes entrent en contact avec un inconnu, une inconnue, et qu'une heure après avoir échangé trois mots, à la suite d'un seul clic, ils se retrouvent dans un clic-clac, à la recherche d'un peu d'amour et de plaisir, sous une étreinte nulle, nulle. Loin de moi tout jugement, toutefois j'en suis sûr, le Christ pleure, le Christ pleure, le Christ pleure devant tant de vide, devant tant de gâchis dans l'ordre de l'amour. Et ce matin, j'entendais sur France Inter que plus de 25% de notre jeunesse avait l'habitude de boire jusqu'à l'ivresse. Mais c'est terrible! Là encore, le Christ pleure, le Christ pleure, le Christ pleure sur ses enfants qui détruisent leur vie et leur avenir. Cette tristesse du Christ, mes frères, elle devrait nous bouleverser comme elle a bouleversé la vie de nombreux saints. Pour n'en prendre qu'un seul, l'Espagnol Saint-Dominique, dont ce sera la fête pendant l'été, avec son ardeur congénitale, vous connaissez les Espagnols, eh bien il passait ses nuits à genoux, près de l'autel, pleurant à chaudes larmes et criant « mon Dieu, que vont devenir les hommes qui s'éloignent de vous et qui se perdent ?» Oui, ce tourment, mes frères, il devrait nous envahir jusqu'à nous pousser à ressentir un vif désir de travailler à la moisson du Christ, en essayant de lui ramener le plus d'âmes possible. Annoncer le Christ, vous savez mes frères, ce n'est pas simplement annoncer la vérité de la foi, même si cela est essentiel, c'est aussi montrer par où le bonheur se donne à trouver. C'est dire haut et fort que seul l'amour vrai comble le cœur humain. C'est remettre à sa juste place les plaisirs de la vie, l'usage de l'argent et des biens matériels. C'est répéter inlassablement que l'honnêteté, la droiture, la maîtrise de soi en tous les domaines doivent caractériser la conduite humaine. C'est rappeler que l'Homo sapiens a une âme immortelle de laquelle il doit prendre soin. Annoncer l'Évangile, c'est au fond dire à l'homme sa beauté foncière et son destin éternel. Alors mes frères, êtes-vous prêts à évangéliser, à vous jeter dans la mêlée? Êtes-vous prêts au nom du Christ à travailler à la moisson, là où Dieu vous a planté? En vérité mes frères, vous n'avez pas le choix puisque vous êtes baptisés, vous êtes apôtres, il faut y aller. Bon, vous êtes prêts, vous avez dit oui, vous partez avec moi à la conquête des âmes. Qu'en pensez-vous? C'est merveilleux. Faire ce que le Christ, ce que la Sainte Vierge et les saints ont fait toute leur vie, y a-t-il une mission plus exaltante? Même la Sainte Vierge, quand elle apparaît aux quatre coins du monde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient chercher ses enfants, elle vient les éduquer. D'ailleurs, mes frères, entre nous, qui n'a pas rêvé au moins une fois dans sa vie de montrer le bon chemin à tel ou tel ami? Petite brebis perdue dans le vide de l'existence. En vérité, je vous le dis, il n'y a rien de plus beau et de plus grand que de travailler à la conversion des êtres qui nous côtoient. Même si ce n'est pas une petite affaire, je le reconnais, les êtres sont têtus et nous ne savons pas toujours comment nous y prendre. Aider le Christ à convertir un être, comme le disait le philosophe Jacques Rivière, c'est une espèce de drame à deux, où il faut presque se perdre soi-même pour sauver l'autre. Et encore, disait-il, on ne réussit pas toujours. C'est pourquoi, mes frères, avant de nous lancer dans cette tâche, puisque nous sommes décidés, il faut bien entendre les indications que Jésus nous laisse. Ce matin, il est impossible de pouvoir toutes les considérer. Je ne peux pas prêcher pendant 2 heures. Dommage pour moi, tant mieux pour vous. Tenons-nous donc aujourd'hui, si vous le voulez bien, à l'unique principe de base que Jésus nous donne avant que nous ne prenions la route. Je vous préviens, parce que cet été, vous aurez plusieurs fois l'occasion de parler du Seigneur et de parler de la beauté de l'être humain à vos amis. C'est sûr. Allez, dit-il, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ça commence bien. Le chrétien est donc un agneau, appelé à vivre au milieu des loups. Si j'ai bien compris, l'agneau chrétien n'est donc pas appelé à vivre avec d'autres agneaux, mais en compagnie des loups. Alors là, voyez, je crois que l'on touche quelque chose de très important. La grande tentation pour les chrétiens, comme pour tout groupe humain d'ailleurs, c'est de rester bien au chaud entre nous, fréquentant uniquement des personnes qui partagent nos points de vue. Comment voulez-vous que le monde se transforme si les chrétiens ne se mélangent pas à la pâte humaine pour la faire lever, si des amitiés ne se nouent pas entre personnes différentes? Car il faut le redire, seul l'amour ou l'amitié, et c'est la même chose, est capable de créer les conditions d'une véritable transformation de la personne. Certes, entre nous chrétiens, et c'est évident, nous menons ensemble une vie commune, nous en avons besoin, une vie faite de prières, d'amitié. Mais comme apôtres, si nous le sommes vraiment, nous devons choisir le camp des loups. Sinon, l'évangélisation ne progressera pas. Voilà une bonne chose de dite. En outre, permettez-moi de vous dire, pour en finir avec cet agneau auquel le Seigneur nous compare, que cette parole « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups » ne veut absolument pas dire que nous allons forcément finir en brochette ou en chair à saucisse, comme si nous étions condamnés d'avance à être dévorés. Non, je ne le crois pas. Cette image de l'agneau n'est pas là non plus pour nous demander de vivre dans la douceur laineuse et dégoulinante des enfants béats. Non, mes frères, ce que Jésus nous demande, c'est la vraie douceur. Cette douceur de l'agneau que Jésus a vécu lui-même, c'est une manière d'être de l'amour qui, paradoxalement, implique une très grande force et une très grande détermination intérieure. Je crois que Jésus veut simplement nous faire comprendre que dans notre rapport avec les autres, la douceur de notre cœur doit être palpable, de manière à ne rien briser en eux, même au nom de la sacro-sainte vérité. Si nous sommes doux, nous serons capables d'accompagner celui qui est devant nous et de marcher à la même allure que lui. Si nous sommes doux, nous trouverons en l'autre, c'est sûr, quelque chose de bon ou de prometteur que nous saurons recueillir et sur lequel nous pourrons prendre appui pour aider le Christ à convertir son cœur. Si nous sommes doux, nous parviendrons même, pendant que l'on parlera ou que l'on écoutera la personne qui nous fera face, à entendre les ordres de Dieu concernant cette personne et les précautions qu'il faut prendre pour la conduire jusqu'à lui. Mes frères, je suis heureux de vous avoir redit aujourd'hui que vous êtes vous, avec tous les prêtres de la terre, les évangélisateurs du monde, les petits agneaux de Dieu et les apôtres du Christ. L'Église a besoin de vous. Est-ce que vous savez, mes frères, que depuis 150 ans, le nombre d'ordinations le plus bas en France, c'est cette année, avec seulement 83 prêtres, avec tous les besoins que notre France a de l'Église et de l'Évangile? Les prêtres seront toujours là pour célébrer la Sainte Messe, pour donner le pardon des péchés et pour prêcher avec force la parole de Dieu. Mais il faut que vous, dans vos milieux de vie, dans vos milieux professionnels et en famille, vous greffiez la foi dans le cœur de tous ceux que vous aimez. Pour la route qui nous reste et pour toutes les rencontres à venir, nous n'emporterons donc ni sac, ni or, ni argent, mais seulement l'évangile de la joie. Et sur nos visages et dans nos yeux, la douceur qui aime et qui convertit. Amen.